BFM Business et la Tribune présente les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, bienvenue dans les experts. Il est 9h passé de 31 minutes. C'est le nouvel horaire, 9h30, 10h30, toujours en direct, tous les jours sur BFM Business. Une heure de décryptage, de débat, de controverses pour y voir plus clair sur l'actualité économique. Et aujourd'hui, on va parler budget. L'État va-t-il une nouvelle fois piocher dans la poche des entreprises pour compenser le coût de la guerre? Si l'on connaît le montant de la facture, 6 milliards d'euros à trouver pour tenir l'objectif de déficit cette année, le gouvernement doit dévoiler cette semaine, eh bien, qui va régler cette facture? Un coup de rabot de 1,5 milliard sur les allègements de charges serait dans les tuyaux, notamment, ce qui n'est pas franchement du goût des chefs d'entreprise, évidemment. Chez des chefs d'entreprise qui doivent par ailleurs faire face à une croissance zéro, à un retour de l'inflation, des tensions sur les coûts, sur leurs marges et bientôt sur les salaires qui ne vont pas manquer d'arriver. Comment gérer ce chaos budgétaire? Ce sera le premier thème des experts ce matin. Et puis, droit de douane, on n'y comprend plus rien. Jeudi dernier, le tribunal de commerce international des États-Unis a invalidé le tarif douanier de 10% imposé par Donald Trump à presque tous les pays du monde. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? On fera le point avec les experts ce matin. On reviendra par ailleurs sur la crise de la natalité. L'envie d'enfant est là en France. Et oui, 2,3 enfants précisément chez les jeunes générations, sauf que le taux de natalité, lui, s'est effondré, passant de 2 enfants en 2014 à 1,56 seulement en 2025. Alors, comment rapprocher les deux, le désir de ce qu'il est possible de faire? Ce sera le troisième débat. Et puis enfin, faut-il croire les apôtres de la job apocalypse? C'est le Figaro, Anne de Guigné, qui pose la question ce matin. C'est une crainte confirmée par le sondage Via Voice, HEC Paris, BFM Business et L'Express. On a interrogé les managers et les actifs français de manière générale face à l'IA. Quasiment un sur deux considère que c'est une menace. Alors, menace réelle ou crainte éphémère? On verra ce qu'en pensent les experts du jour. Voilà pour le programme. Il est 9h passé de 34 minutes. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Thomas Grébine. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Responsable du programme Macroéconomie et Finances Internationales au CEPI. À vos côtés, Ryan Nézard. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Professeur à Sciences Po et Laurent Vronsky. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus. Alors je le disais pour commencer, on va un peu parler budget ce matin. On attend des annonces cette semaine venant de Bercy sur comment tenir l'objectif de déficit cette année. On sait que le coût de la guerre, c'est 6 milliards d'euros d'ores et déjà, 6 milliards de dépenses supplémentaires et aussi de recettes en moins. Il va falloir compenser tout ça. Oui, mais comment? On parle beaucoup de coups de rabot sur les allègements de charges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les entreprises qui risquent de payer, de passer une fois de plus à la caisse. Je commence avec vous, Ryan Nézard. D'abord, est-ce qu'il va falloir, face au ralentissement économique, croissance zéro au premier trimestre, hausse de l'inflation qui a des conséquences budgétaires importantes, est-ce qu'on va devoir passer par un budget rectificatif en 2026?
Alors, pas forcément, mais je vais y venir peut-être à la fin, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord, au-delà de ces conséquences évidemment géopolitiques, la crise actuelle, la guerre au Moyen-Orient, a des incidences sur la prévision de croissance, la prévision d'emploi, la prévision d'inflation, la prévision de finances publiques, pas simplement en France, partout en Europe. Si on regarde nos voisins, l'Allemagne vient de diviser par deux sa prévision de croissance,
eh oui,
d'augmenter sa prévision d'inflation bien au-delà de 2%. L'Italie a fait la même chose, mais dans une proportion un peu moindre, l'Espagne également, en fait, tous les pays de la zone euro. Et la France, vous l'avez dit, a connu au premier trimestre une croissance nul. Donc les conséquences économiques, elles sont déjà là. Et au fond, on le voit bien dans le quotidien. Les prix à la pompe qui sont envolés, le prix du gaz également, qui va augmenter, pas simplement les prix du pétrole. Des conséquences ensuite pour l'industrie, pour l'agriculture, via les engrais, les coûts de transport, etc. etc. Donc aujourd'hui, la conséquence économique de cette crise pour le pays, c'est moins de compétitivité pour les entreprises, moins de pouvoir d'achat pour les ménages, et un risque, en effet, de dérapage des finances publiques. Alors, face à ce risque, est-ce qu'il faut un nouveau budget rectificatif pour 2026? Moi, je ne le crois pas, pour deux raisons.
C'est rouvrir la boîte à baffes à l'Assemblée nationale. Alors, à chaque fois, c'est toujours pareil.
La première, c'est que le gouvernement peut agir par décret. Oui. On peut faire des économies par décret. Il n'y a pas besoin forcément de recourir
à... Et beaucoup d'économies. Je retrouvais février 2024, 10 milliards d'économies. Un coup de crayon, une signature de Bercy à l'époque.
Un peu plus de coups de crayon et aussi une signature du Premier ministre. J'étais à l'époque conseiller budgétaire à Matignon en 2024. Nous avions annulé à cette époque 10 milliards d'euros de dépenses publiques sur le budget de l'État pour freiner le déficit. Et donc le gouvernement, c'est probablement ce qu'il va faire d'ailleurs, peut annuler jusqu'à de l'ordre de 10 milliards d'euros de crédit.
Je rappelle, on a 6 milliards à trouver, 4 milliards sur le budget de l'État, 2 milliards sur le budget de la sécurité sociale.
Aujourd'hui, les choses vont s'aggraver, mais je vais y venir. Et ce que vous évoquez sur les allègements de cotisations pour les employeurs, en réalité, ce qui est évoqué ce matin dans la presse, c'est-à-dire de conserver le barème actuel des allègements de cotisations et de ne pas appliquer la revalorisation du SMIC qui va arriver en juin sur ces exonérations de cotisations, c'est... Pour moi, ce n'est pas une mesure scandaleuse au sens où ça consiste simplement à compenser l'effet aujourd'hui qui va revaloriser le SMIC, le compenser pour que ça ne se traduise pas aussi sur les dépenses.
Il faut l'expliquer parce que c'est un petit peu, compliqué, ça, Ryan. C'est-à-dire qu'on a de l'inflation. 1er juillet, indexation automatique du SMIC sur l'inflation. Donc le SMIC va augmenter. Et parce que le salaire minimum va augmenter, les allègements de charges...
Le barème qui est utilisé pour calculer les allègements, on l'appelait Fillon-Aubry à l'époque, les allègements de charges pour les employeurs. Ce barème, normalement, il évolue en fonction du SMIC. Mais on voit bien que dans une période de crise énergétique inflationniste, il n'est pas illégitime de se dire si ce barème ne doit pas être un peu revu, en tout cas à la marge. On parle d'un milliard et demi sur plus de 80 milliards d'euros d'allègements. Donc il faut quand même remettre les ordres de grandeur. Juste pour finir sur le budget rectificatif, pour moi, la deuxième raison qui justifie de ne pas en faire, c'est le spectacle qu'on a constaté l'an dernier, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est en fait cette
était déjà question,
des taxes, où à chaque fois qu'on a un débat aujourd'hui budgétaire au Parlement, reviennent les débats sur la taxe Zuckmann, sur l'impôt sur la fortune, sur la CSG, là, sur les super-profits, etc., etc. Des débats passionnants, mais qui ne régleront en rien la crise actuelle à laquelle on est confronté.
Bon, je vais venir à la parole du chef d'entreprise pour voir ce coup de rabot là sur les allègements de charges, comment c'est vécu, mais avant l'analyse de l'économiste Thomas Grabin.
Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit juste en complément. C'est vrai que le gel du barème, les allègements de charges, c'est un peu un serpent de mer. C'était déjà dans le projet de loi de finances pour 2026. Oui. Il devait rapporter 1,5 milliard d'euros et ça avait suscité une opposition légitime d'une part du
notamment patronat, la Macronie, oui, absolument.
Et du patronat et d'autre part de la Macronie. Là, je pense que... il y a peut-être une fenêtre pour passer plus facilement. Le deuxième...
Donc c'est que, non, mais attendez, c'est important. Ce que vous nous dites là, c'est que Sébastien Lecornu a essayé de couper un peu ses allègements de charges durant le PLF, que ce n'est pas passé pour des raisons politiques. Et donc on revient par décret pour finir le boulot, quoi.
Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est possible que l'opposition politique soit... peut-être plus faible maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc ça c'est le
parce qu'il y a une crise aussi.
Parce qu'il y a une crise aussi, ouais. Oui. Le deuxième élément, c'est que en 2022-2023, il y avait eu des projets de loi rectificatifs aussi parce qu'il y avait eu des mesures budgétaires massives pour soutenir les ménages et les entreprises. On se souvient que ça avait coûté très très cher. Là, aujourd'hui, les mesures sont relativement faibles, disons marginales d'un point de vue macroéconomique. On parle d'aide autour de 470 millions,
quelques centaines de millions
d'euros. Donc c'est quelque chose qui est gérable d'un point de vue budgétaire. Donc en fait, c'est, il y a déjà plus ou moins une, enfin c'est déjà une forme de gel quand vous prenez des mesures faibles.
Ne alors, pas dépenser plus, c'est déjà une forme d'effort en soi.
Voilà,
en
ne pas dépenser plus, c'est déjà ouais voilà. Et dernier point, ce qui est aussi peut-être frappant, c'est que là sur les 6 milliards d'économies qui sont évoquées, il y en a 4 milliards sur les dépenses
oui,
de l'État
oui.
Et 2 milliards sur la sécurité sociale. Et ça de nouveau, c'est peut-être un problème parce que quand on regarde depuis 25 ans la hausse des dépenses publiques, c'est pour les deux tiers de cette hausse, c'est des hausses de dépenses sociales. Et quand on regarde et donc essentiellement les retraites et la santé. Quand vous regardez maintenant les dépenses de l'État, elles ont augmenté autour de 1 point en volume chaque année, alors que les dépenses de sécurité sociale et les dépenses des collectivités territoriales ont augmenté de 2 points chaque année. Donc là, de nouveau, on demande un effort à l'État, alors qu'en fait, le gros problème des finances publiques en France, ce n'est pas les dépenses
de l'État. Donc le ratio n'est pas le bon, quoi. Deux tiers État, un tiers Sécu, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, si je vous entends.
Au moins l'inverse, oui.
Bon, quand le chef d'entreprise, Laurent, entend qu'on va à nouveau mettre un coup de rabot sur les allègements de charges pour financer ces 2 milliards sur la Sécu, moi je ne peux pas oublier le fait qu'on a oublié, par exemple, faire un effort sur les retraités et le 10% d'allègement pour frais professionnels dans la Sécu, c'était 4 milliards. Hein. On avait déjà trouvé une bonne partie du problème. Le fait qu'on aille encore une fois piocher dans du côté des entreprises, comment ça vous fait réagir ?
On va faire un petit flashback. Parce que là, je comprends bien qu'il y a une crise. Alors, je le dis très gentiment, mais j'ai pas besoin de le lire dans le journal. Je le vis tous les jours. Je rappelle qu'une entreprise comme la nôtre, qui est fortement exportatrice, est confrontée à deux crises. La guerre commerciale, qui ne s'est pas volatilisée, et la guerre tout court. Hein. Bon. Si nous avions un État parfaitement bien géré, avec des dépenses publiques optimisées, avec des gens à la tête qui sont courageux, qui ont fait qui fassent les vrais choix pour éviter qu'il y ait un dérapage. Alors, on n'est même plus au stade du dérapage. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on est carrément dans les bottes de foin. Hein. Je dirais, bon, il y a une crise, et je pense que tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent diraient, OK, il y a une crise, on contribue. Mais pas du tout. Je veux dire, vous avez parlé de la dissolution, mais ça a été le coup d'envoi du concours Lépine de la fiscalité la plus punitive. Donc ça fait combien de temps que, si vous voulez, les gens qui font vivre le système, dire, je le dis très gentiment et très modestement, mais le seul autour de la table qui signe l'échec, c'est moi. Bon, et toutes les entreprises qui font vivre le modèle social, ça fait combien de temps que l'on demande à l'État de prendre les mesures courageuses, pas seulement pour réduire les frais de fonctionnement, monsieur a raison, mais pour justement s'attaquer au problème de la redistribution sociale où on sait qu'il y a des abus. Mais je rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps, il n'y avait pas de faux chômeurs, il n'y avait pas de fraude sociale, il n'y avait pas tout ça. Donc, ce qui est extrêmement démotivant, je pèse mes mots, décourageant et frustrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on se tourne vers ceux qui peuvent encore payer. Quand ceux qui peuvent encore payer disent, bah écoutez, avant de sortir le chéquier, il serait bien de faire des réformes, de s'attaquer au dur. Et là, on a des regards pudiques qui se détournent, particulièrement en période électorale.
Ah oui.
Et le déficit ne fait qu'augmenter, et la dette ne fait qu'augmenter, et la charge de la dette ne fait qu'augmenter. Donc pour nos auditeurs, quand on paye des taux d'intérêt à des emprunteurs, c'est de l'argent qu'on n'utilise pas pour, par exemple, l'éducation, la sécurité, la médecine, qui sont les piliers régaliens de l'État. Donc vous me posez la question, comment je réagis par rapport à ça ? Mais écoutez, nous avons un État qui est obèse, qui globalement, on a l'impression qu'il vit, qu'il se suffit à lui-même, et à chaque fois qu'il y a un problème, se tourne toujours vers les bailleurs de fonds forcés que nous sommes. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable ras-le-bol. Pendant le grand concours Lépine fiscal, on a parlé de refus de consentement à l'impôt. Beaucoup de gens, comme moi-même, qui faisons vivre le système, aujourd'hui, se posent de vraies questions.
Ouais. Bon, on voit que ça va être compliqué un an de la présidentielle. Ryan Nézar, je vous vois réagir. Vous n'êtes pas complètement d'accord avec le témoignage du chef d'entreprise autour de la table.
Le témoignage, il est évidemment respectable. Juste sur la mesure dont on parle. Vous n'avez pas à me remercier. Chacun exprime avec sa sincérité ce qu'on fait et ce pour quoi on s'engage. Mais juste, ce dont on parle là, c'est que très concrètement, vous avez un salarié qui a 3000 euros brut aujourd'hui. Vous avez un montant d'exonération sur sa feuille de paye, en tout cas quand vous réglez les cotisations à l'URSSAF. Ça, c'est le cas de figure aujourd'hui. Ce montant, il est calculé en fonction d'un barème. C'est pas un truc discrétionnaire, c'est pas un quelqu'un en costume gris comme votre serviteur qui arrive et qui dit c'est X ou c'est Y en fonction de la tête du client. Non, c'est un barème, c'est le même pour toutes les boîtes, avec quelques modulos. Ce barème, demain, si on augmente le SMIC, le même salarié à 3000 euros, vous aurez plus d'allègements. Son salaire n'aura pas changé. Ce que vous payez pour cet employé, finalement, vous n'aurez pas augmenté son salaire. Et néanmoins, il y aura plus d'aide sur ce contrat de travail. Alors, je veux bien entendre que ce soit évidemment un peu complexe, un peu technique, mais il y a un effet pour les entreprises de baisse du prélèvement sur ces contrats de travail qui est mécanique, même pour les emplois qui ne sont pas au niveau du SMIC.
C'est-à-dire, pour bien comprendre,
ce que je veux dire, c'est que quand on a créé ces allègements de
cotisation, on ne paiera pas plus, il touchera lui-même le même salaire, mais l'entreprise payera moins de charges.
Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on stabilise le barème de ces allègements, oui. Ça revient à dire que pour un contrat de travail aujourd'hui à 3 000 euros brut, les cotisations avant et après sont les mêmes. Si on laisse faire l'augmentation du SMIC, mécaniquement, et on peut dire que cette loi est mal écrite, on peut critiquer, mais mécaniquement, en l'état du système, ça conduit à dire que sur ce même contrat de travail, je prends 3000 euros brut, peu importe le montant, vous aurez plus d'allègements de cotisations. Je me permets juste de dire, je suis complètement d'accord pour dire que la France a plus d'impôts de production sur les entreprises, qu'il faut les baisser, qu'on a sans doute pas assez fait d'efforts.
J'ai pas parlé de ça.
Oui, mais moi je vous le dis. Donc il y a pas de problème, et on peut peut-être se retrouver là-dessus. Néanmoins, dans la période de crise actuelle, baisser ces prélèvements-là à ces niveaux de contrats de travail qui n'ont pas forcément besoin d'être, on va dire, encouragés aujourd'hui, c'est forcément un choix qui questionne le gouvernement quand il est en train de chercher à ne pas déraper au plan budgétaire.
Bon, et Laurent ?
Alors, je vais répondre. Là, on est typiquement, je pense, dans ce qui anime tous les débats depuis maintenant un an et demi, c'est-à-dire qu'on parle de choses extrêmement pointues. Alors moi, c'est pas un avis que j'ai. Je dirais l'ambassadeur de la concrétude. C'est-à-dire que tout ce que vous évoquez, je le vis du matin au soir et je signe les chèques et j'ai vu le montant. Je vois ce que notre entreprise signe comme chèque global à l'État. Vous imaginez, regardez, pour expliquer la mesure, il faut quasiment qu'on soit trois sur ce plateau pour que les auditeurs comprennent.
Ah oui, mais bon. C'est la technicité de la fiscalité française et du système globalement.
Mais ce qui est intéressant,
ça s'appelle les experts, donc c'est bon signe.
J'entends bien, mais je veux dire qu'on peut très bien expertiser et justement proposer des choses beaucoup plus simples et lisibles. Pourquoi est-ce qu'on a inventé ces exonérations de charges? Pourquoi? C'est ça la vraie question. Et là, on est au cœur du problème français, à savoir l'usine à gaz fiscale. C'est-à-dire que comme... quand, après les 35 heures, on a eu une envolée, si vous voulez, des coûts du travail.
C'était avant les 35
et qu'on
heures.
A voulu,
c'était Balladur.
Et qu'on a voulu neutraliser ces effets néfastes au niveau de l'emploi, notamment au niveau des gens qui sont, si vous voulez, les moins bien lotis et qui sont pas les plus qualifiés. Donc, on a inventé tout un système auquel personne ne comprend rien, les salariés en premier, j'en suis témoin, on n'a jamais eu autant de questions sur les feuilles de paye. Et donc, on a inventé cette usine à gaz pour neutraliser les effets néfastes.
Oui, donc, sur l'emploi et sur les bas salaires.
Donc, on en est là. Ce qui veut dire que si vous voulez, ça c'est un excellent exemple du maquis fiscal dans lequel nous vivons. Et donc la question principale, c'est pas cette mesure en particulier. Je pense qu'on arrive à la fin d'un système où on a besoin de faire un master reset et de repenser le système. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement économique qui est extrêmement fluide, extrêmement mouvant, n'en déplaise à certains, et que les entreprises sont mobiles.
Oui, mais Laurent, est-ce qu'on n'est pas comme ça dans tous les pays ? Est-ce qu'il n'y a pas une complexité fiscale ou sociale, finalement, dans tous les pays ? Si vous remplissez une déclaration d'impôt aux États-Unis, et c'est un truc épais comme ça,
écoutez,
et vous avez besoin de trois avocats fiscalistes pour y arriver.
J'ai 8 ans aux États-Unis, donc je connais un peu le site américain. Le paradis fiscal n'existe pas, mais si vous voulez, simplicité et stabilité sont quand même des choses auxquelles on peut tendre.
Thomas Grébin.
Non, mais il y a un autre point qui, je pense, qui pourrait nous rassembler tous les trois, c'est le problème du bouclage macro. C'est-à-dire que, et là, le problème, c'est qu'on a des dépenses sociales qui sont 5 points de PIB supérieurs à la moyenne de l'Union européenne. On a un déficit de la sécurité sociale qui devient malheureusement quasi structurel, autour de 20 milliards d'euros. Et en fait, on ne sait pas trop comment le financer. Et donc, en effet, le plus facile, c'est faire des, surtout dans le contexte politique actuel, c'est de faire des réformes paramétriques, mais qui sont en effet in fine payées par les entreprises qui payent déjà plus que dans les autres pays européens. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas le consensus politique pour faire des réformes de la protection sociale. Vous avez évoqué les pensions. Si on faisait une désindexation des pensions de retraite avec 2% d'inflation, ça pourrait rapporter autour de 8 milliards d'euros. Donc on voit bien que même d'un point de vue budgétaire, les montants, si on touchait aux paramètres de la protection sociale, ça rapporterait beaucoup plus. Mais d'un point de vue politique, évidemment, et surtout dans un contexte où le pouvoir d'achat, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, ben, c'est très difficile à passer. Donc au moins jusqu'à la présidentielle, on est condamné à ce type de rustine. Mais en effet, ce type de réforme paramétrique, in fine, ça consiste à augmenter les impôts sur les entreprises.
Alors l'autre rustine qu'on risque d'avoir en fin d'année, c'est la loi spéciale. On en parle beaucoup en ce moment. C'est comment gérer ce dernier budget avant l'élection présidentielle l'année prochaine. Tout le monde prédit le chaos. Et donc le scénario qui tourne beaucoup est celui d'une loi spéciale. Pour faire simple, on reproduit le budget 2026 en service voté 2027, emballé, c'est pesé, et au prochain président et à la prochaine assemblée de voter son budget. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel scénario, Ryan Nezar? Je crois que Bercy n'est vraiment pas en faveur de ce scénario.
Alors, en tout cas, la loi spéciale, c'est très mauvais pour le pays, parce que ça consiste à reproduire en 2027 le même budget de l'État qu'en 2026. Donc ça veut dire mécaniquement, ce que disait Thomas à l'instant, que les dépenses sociales qui galopent sous l'effet du vieillissement démographique vont continuer à augmenter et qu'on n'a aucun levier, aucune marge de manœuvre pour freiner cette évolution. En termes de chiffres, très
concrètement, donc ça coûte cher.
C'est 20 milliards d'euros de déficit en plus, si on n'agit pas sur les finances publiques, si on décide juste de reconduire en 2027 le budget de 2026. 20 milliards d'euros.
20 milliards d'euros en plus.
La deuxième chose, c'est que c'est le contraire de la politique. La politique, c'est faire des choix, en principe. Et le budget, c'est quand même le moment où on fait des choix qui concernent l'ensemble de notre société.
Ryan Nezar, on n'arrive plus à prendre de décisions politiques.
C'est bien le problème.
Depuis juillet 2024.
Je vais terminer là-dessus en vous racontant une anecdote, mais pour parler des retraites, qui était le débat juste avant. Mais si on a en 2027 le même budget qu'en 2026, ça veut dire qu'on n'a aucun financement nouveau pour l'électrification des véhicules, qu'on laisse 80% des universités en déficit alors qu'il faut réinvestir dans notre enseignement supérieur et notre recherche, qu'on ne fait rien pour rendre le métier de professeur plus attractif, qu'on ne renforce pas notre industrie de défense, etc., etc., et qu'on ne fait pas les choix en face pour financer toutes ces priorités pour le pays, en tout cas, me semble-t-il. Donc, à mon avis, la loi spéciale, c'est vraiment un très mauvais scénario pour le pays. Et ça repousse les choix, ça veut dire que, finalement, les partis de gouvernement se délaissent de toute responsabilité, sont pas capables de se mettre autour d'une table et de trouver des compromis, et laissent finalement les Français à leur anxiété et au choix de l'élection présidentielle. Donc je pense qu'il faut éviter ça. Mais juste une anecdote sur la question des retraites. Pourquoi on a eu ce débat juste avant sur les prélèvements obligatoires? Je suis, pour le coup, complètement d'accord avec votre point. C'est pas du tout la priorité d'augmenter les prélèvements obligatoires. Il vaut mieux faire des économies, notamment sur le modèle social. Mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui politique pour faire ces économies. Moi, j'étais conseiller budgétaire à Bercy en 2023, quand le choix a été fait de revaloriser les retraites de à peu près 5% pour janvier 2024.
Le pire choix de la décennie.
Ça a coûté 15 milliards. Mais,
soit à peu près l'équivalent des économies que devait apporter la réforme d'Elisabeth Borne l'année précédente.
C'était lié à l'inflation. Mais comment ça s'est fait? Vous croyez que les ministres ont proposé, d'ailleurs Bruno Le Maire qui a écrit un livre, en train de raconter ça, c'est pour ça que je me permets aussi de le dévoiler. Vous croyez que les ministres étaient d'accord? Tous les ministres ont plaidé pour ne pas le faire. Tous les ministres ont dit, il vaut mieux demander un effort en faisant en sorte qu'il soit juste, donc peut-être en modulant l'effort selon le niveau de retraite. Mais en tout cas, éviter à l'avenir d'avoir des choix injustes simplement parce qu'on paierait le prix de cette crise inflationniste.
Non mais pardon, Ryan Nezar, c'est la responsabilité des politiques.
Oui, mais
au final,
les députés du Parti Socialiste et des Républicains nous ont répondu, si vous faites ça, on vous censure. Donc il n'y avait, à l'époque, avant même la dissolution, et il y a aujourd'hui encore moins, de majorité politique à l'Assemblée nationale pour appliquer un tel programme, qui est programme d'économie, notamment sur le modèle social. Donc il y a une élection qui arrive en 2027, il y aura peut-être des choix qui seront faits par les Français, mais il ne faut pas non plus penser, je termine par là, que les politiques ne sont pas conscients de tous ces problèmes. Simplement, il n'y a aujourd'hui pas de majorité pour les résoudre.
Laurent Wonski.
La formule est élégante, je la salue. Enfin, y a ceux qui sont conscients, puis il y a ceux qui la vivent. Moi, je fais partie de ceux qui la vivent. Bon. Et monsieur a raison. Je veux dire que, si vous voulez, mais ce qu'on demande, posez la question sur la loi spéciale, je veux dire qu'on donne des mandats à des gens pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour le pays. C'est ça, le fondement de la politique. C'est pas une carrière, c'est pas un institut.
La politique, c'est rendre le nécessaire possible.
Donc, là où je suis d'accord avec
monsieur, c'est parfois compliqué.
Si vous voulez, on a l'impression, je veux dire que pour ceux qui sont, enfin qui voient ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on est passé en vitesse surmultipliée. Je veux dire, on est face à des chocs complètement inédits. Que ce soit au niveau de la géopolitique, je crois que là-dessus, j'ai pas besoin de m'étendre.
Évidemment.
Que ce soit au niveau de la technologie, on va en parler, l'IA est en train de faire, je dirais, des bouleversements complètement inédits. Donc, on est en 78 tours à l'extérieur. Et puis à l'intérieur de ce cénacle, là, on est à 33 tours. Donc il y a quand même un petit problème.
Une petite dissonance musicale.
Voilà. Bon, donc maintenant, si pendant un an, effectivement, on fait une loi spéciale, ça veut dire qu'on met le pays sur pause à un moment où on doit faire des choix qui vont déterminer notre avenir, pas pour 2027, mais pour les 10, 15, 20 ans à venir. On en est là. Donc finalement, ce n'est pas un choix politique, c'est plutôt un choix de société. Et il va falloir le courage, même sans majorité, de dire les choses, de proposer les choses. Après, on est en démocratie. Je dirais, on a un Parlement, il est fait pour ça, il décidera. Mais au moins, si vous voulez, qu'on me donne les vrais choix. Ce que nous faisons dans nos entreprises par rapport à nos collaborateurs. Depuis le Covid, on a géré 7 crises systémiques. Croyez-moi, on ne s'est pas ennuyé, on ne s'est pas amusé. Et on a dû faire des choix kafkaïens.
Oui, et puis on peut se dire aussi qu'en cas de censure du gouvernement, finalement, ils arriveront en fin de course. Donc c'est peut-être le moment d'être courageux et de passer en force. Pourquoi pas ? Moi, c'est un de mes scénarios. Thomas Grébin.
Je m'en souviens que c'était un peu le pari de François Bayrou, c'est-à-dire qu'on va mettre les chiffres sur la table et les Français, comme sera, les politiques seront conscients de la situation.
On a l'impression que ça infuse un peu dans l'opinion publique, quand même, dans les différents sondages qu'on peut avoir.
Je suis pas sûr, parce qu'il y a toujours un peu des recettes miracles qui sortent du chapeau, que ce soit la taxe Zucman à l'automne, maintenant c'est la taxe sur les super profits Total, qu'on se souvient en 2022-2023. Ouais, fait à l'étranger qui avait rapporté 70 millions d'euros. Donc, tant que vous agitez un peu ce genre de mistigris, en fait, vous pouvez dire on va taxer les super riches, on va taxer Total, et ça évite de voir les réalités macroéconomiques. Et de nouveau, les réalités macroéconomiques, c'est le fait qu'on a un modèle social qui est aujourd'hui très
donc c'est les retraites et la santé.
Mais ça, politiquement, c'est explosif. Et de nouveau, sur les retraites, on dépense 2 à 3 points de PIB en plus que la moyenne européenne.
Et
donc, ça ne veut pas dire que les retraités vivent bien dans les autres pays européens, mais ça veut dire qu'au moins, il y a un choix macroéconomique, un choix de priorité de politique économique qui est fait différemment dans les autres pays. Donc, si vous mettez 2 à 3 points de plus dans les retraites en France, c'est 2 à 3 points de plus en moins pour d'autres postes de dépenses, que ce soit l'éducation ou les impôts de production.
Alors, même que la natalité est en train de baisser plus rapidement que prévu, on va en parler dans la seconde partie de l'émission. Quelle réponse apporter à la bombe démographique ? C'est directement corrélé au sujet dont nous parlons en ce moment. Et puis, faut-il croire les apôtres de la job apocalypse ? Ça, c'est évidemment les craintes face à l'intelligence artificielle. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h, passé de 1 minute. Notez bien le nouvel horaire des experts tous les jours sur BFM Business. C'est désormais 9h30, 10h30 avec toujours autour de la table Thomas Grébin, responsable du programme Macroéconomie et Finances Internationales au CEPI, Ryan Nézard, professeur à Sciences Po, et Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus. Bon, on a beaucoup parlé budget durant toute la première partie de l'émission. Je voulais qu'on parle des droits de douane, peut-être. Thomas, en deux minutes, simplement, nous expliquer, c'est le challenge du jour. Jeudi dernier, le tribunal de commerce international, c'est pas la Cour suprême, hein, c'est le tribunal de commerce international des États-Unis qui a invalidé les 10% de tarifs que Donald Trump avait mis à absolument tout le monde. On a l'accord US-UE qui n'est plus appliqué non plus. On est paumé dans ces droits de douane. Je voudrais avoir le témoignage de Laurent après, qui exporte aussi aux États-Unis. Mmh. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce grand maelstrom douanier entre l'Europe, la France et les États-Unis ?
On en est dans une situation où Donald Trump cherche toujours de nouvelles formules juridiques pour passer ses droits de douane. Donc là, ce qui a été invalidé, c'est ce qu'il avait proposé en février, où il avait sorti une vieille loi des années 70 qui pouvait être appliquée s'il y avait un déficit de la balance des paiements. Or, le tribunal que vous avez mentionné a considéré qu'on n'était pas dans la situation mentionnée par ce texte, parce que ce texte était à une époque où le dollar était indexé à l'or. Or, aujourd'hui, ce n'est manifestement pas le cas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump a déjà prévu de nouveaux instruments juridiques qui pourraient être utilisés. Notamment, il y a un texte sur les représailles présidentielles qui pourraient être pris. Puis après, il y a une autre disposition.
Et qui, là, sont très sectorielles, c'est-à-dire qu'on cible tel ou tel produit.
Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, la Cour suprême n'a pas répondu sur le fait que constitutionnellement, le président ne pouvait pas prendre des mesures qui sont du ressort du Congrès. Et on voit bien dans les décisions juridiques qui ont été prises, c'est chaque fois ils jugent sur les décisions spécifiques en se demandant est-ce que le texte particulier est bien motivé. Mais donc ça permet à Donald Trump et à son administration de trouver de nouveaux instruments juridiques pour faire passer ces droits de douane. Et peut-être juste un dernier point, c'est qu'on a toujours l'impression que Donald Trump, il y a des allers-retours, ce qui est vrai en partie, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le droit de douane moyen, par exemple, le droit de douane moyen effectif appliqué par les États-Unis a quand même augmenté de plus de 10 points par rapport au début de son second mandat. Donc, il y a bien une augmentation significative des droits de douane. Et même quand on parle de la Chine, alors certes, le droit de douane effectif, il est plus à 50% comme il y a quelques mois, mais il est toujours un droit de douane autour de 30%. Donc, il y a des allers-retours, mais Donald Trump réussit quand même, entre guillemets, à augmenter significativement le taux de droits de douane moyen effectif.
Donc, la guerre commerciale a bien eu lieu. Même si le commerce international a augmenté en 2025. Laurent, vous êtes une entreprise exportatrice, notamment aux États-Unis. Vous êtes bon conseiller, là, pour gérer tous ces yo-yo réglementaires.
Mais les conseillers ont besoin de conseillers. Donc, si vous voulez, personne n'en sait rien. C'est pour ça que ce qui est en train de se passer, c'est que les acteurs économiques, donc de part et d'autre de l'Atlantique, ont compris que aujourd'hui on était dans un monde particulièrement incertain à ce niveau-là, et que finalement il faut essayer de donner vie au projet. Puis après, on va gérer au fil de l'eau, parce que bien malin est celui qui sait prévoir si on va être à 10, à 15, à 35. Puis alors je vous passerai l'explication de texte sur les catégories, hein, avec des catégories chapeaux extrêmement larges. Donc nous, on est métaux ferreux, vous voyez, on exporte des machines, des biens d'équipement, on est là-dedans. Bon, donc globalement, je dirais qu'on essaye tant bien que mal de maintenir le volant d'affaires, ne sachant pas ce qui va se passer et en se disant finalement on va gérer les choses au fil de l'eau. Par contre, là où monsieur a évidemment raison, c'est que la facture, elle a bel et bien augmenté. Alors maintenant, la question, c'est pas de savoir si elle va augmenter, c'est de savoir de combien et quand. Et si ça va être invalidé ou pas
invalidé. Oui, et puis de qui supporte la hausse ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez passé la hausse des prix sur vos clients ? Est-ce que vous avez pris sur vos marges ? Parce que c'est le distributeur sur place.
Ce qui se passe, et c'est très intéressant, c'est que 95% des hausses de taxes ont été payées par le consommateur américain. Donc, quand M. Trump dit qu'il a rendu service à son pays, écoutez, je laisse seul juge les mêmes citoyens américains et contribuables. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous exportateurs aujourd'hui, je veux dire que nous exportons dans un pays, c'est pas nous qui faisons les lois. Donc évidemment, on a des discussions commerciales qui, vous l'imaginez, ne manquent pas de verve. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin, en plus de ça et du reste, d'avoir, en plus, dans notre propre pays, d'avoir des discussions et la certitude fiscale.
Bon. Allez, il faut qu'on avance, on est un peu... Thomas, une petite réaction, mais rapide.
Il est bien le sujet.
C'est la natalité.
Non, mais c'est vrai que c'est le consommateur américain qui paye les droits de douane sur les importations.
Mais on l'a vu, ça, vraiment. L'inflation n'est pas... On est à quoi, 3% aux États-Unis ?
Elle est moins que prévu, parce qu'en particulier, il y a eu des effets de stockage en début d'année. Mais ce que je veux dire, c'est
à venir. Aussi,
ça risque d'être à venir, oui. Mais c'est en partie l'objectif poursuivi. Quand vous mettez des droits de douane, l'objectif, c'est de surenchérir les importations pour produire sur le sol américain. Oui, donc le fait que les produits chinois coûtent plus cher pour le consommateur américain, c'est le but. Parce que s'ils ne coûtaient pas plus cher, vous n'auriez aucune incitation à produire, par exemple, les voitures sur le sol américain. Donc c'est un peu dans le discours le fait qu'on dit toujours « oui, mais Donald Trump se trompe ». Parce que ça surenchérit le prix pour le consommateur américain. Moi, je dirais que c'est justement le but de ce type de droit de douane.
Juste, il y a un autre pays européen qui est principalement confronté à cette guerre commerciale, c'est l'Allemagne. Si la surtaxe de 25% qui a été annoncée par l'administration américaine s'applique à partir de juillet sur le secteur automobile, je vais me rappeler que c'est 500 000 de voitures allemandes qui sont exportées chaque année aux États-Unis, et c'est leur premier marché à l'exportation. L'industrie allemande est aujourd'hui confrontée à la nouvelle vague de concurrence chinoise. Donc, On a les débats, évidemment, sur l'impact sur l'économie française, que ce soit sur l'industrie, sur l'agriculture ou sur les services. Mais aujourd'hui, le premier pays qui va subir cette guerre commerciale en Europe, c'est l'Allemagne.
Allez, je voulais qu'on avance sur la natalité avec cette étude du Haut Commissariat au Plan qui résume bien. Alors, il n'y a pas d'annonce fracassante, mais c'est une très très bonne synthèse des enjeux économiques qui reposent sur la bombe démographique que nous sommes en train d'expérimenter. Je rappelle que l'année dernière, en 2025, le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances. Cette note rappelle un peu tous ces enjeux avec ce chiffre. Moi, j'avais envie de partir là-dessus. Et Ryan, je commence avec vous, puisque c'est l'un de vos tweets qui m'a alerté sur cette étude. C'est l'envie d'enfant qui est là chez les Français, chez les jeunes Françaises et les jeunes Français qui souhaiteraient avoir 2,3 enfants en moyenne chez les jeunes générations. Sauf que le taux de natalité s'est effondré, lui, en 10 ans, hein, 2014-2025, on est passé de 2 enfants par couple à 1,56. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette décennie ?
D'abord, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ça tord le cou à l'idée que les jeunes générations ne voudraient plus d'enfants. En réalité, elles en veulent, mais il y a un certain nombre de causes qui font que...
De contraintes, moins, on va y venir.
Le niveau et la stabilité des revenus, évidemment les coûts du logement, la qualité de l'emploi, et puis plus largement forme de défiance dans l'avenir. Donc c'est tous ces facteurs, alors c'est débattu hein, dans la littérature scientifique, mais c'est tous ces facteurs qui contribuent à cette dénatalité. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est que ça n'est pas un phénomène franco-français.
Absolument, oui, on n'est pas seul, pas. Hein, évidemment.
Absolument hein. Pas. En fait, aujourd'hui, la moitié des pays dans le monde sont déjà en dessous du seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1, et donc ont un indice de fécondité qui est inférieur, la moitié des pays dans le monde. Et l'Europe, évidemment, un des taux les plus bas, on est à 1,4 en moyenne. Donc on voit, pour résumer les choses, que la France a encore quand même un indice
de fécondité
supérieur à la moyenne européenne. Je veux quand même dire en troisièmement que tout ceci est un vrai problème. Là, le débat dans notre société est en train de monter sur cette question de la démographie,
oui,
de la natalité.
Enfin.
C'est un immense problème pour notre pays, et à commencer par notre modèle social, parce qu'on a une population qui vieillit d'un côté, et un nombre de naissances, vous l'avez dit, qui pour la première fois l'an dernier, en 2025, a été inférieur au nombre de décès pour la première fois depuis 1945. Donc, on ne peut pas financer dans la durée notre modèle social, on va dire, à l'européenne, avec cette démographie-là. Donc, c'est un vrai problème. La note, ensuite, esquisse quelques pistes de réflexion. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça permet quand même de refixer un certain nombre d'idées. D'abord, en France, 2/3 de la politique familiale, si je parle en termes de budget, 2/3 de la politique familiale, ce sont des transferts monétaires, des allocations familiales, des allègements fiscaux, etc.
Et c'est pas une paille.
On
peut rappeler les quantums. Hein.
Oui, c'est 60 milliards au total si on prend les dépenses et le quotient familial.
On est un des pays les plus généreux au niveau européen.
Oui, mais on n'est pas beaucoup plus au-dessus de la moyenne. En fait, tous les pays européens sont autour de ce chiffre, sauf la Hongrie, j'en parlerai. Mais en tout cas, on dédie 2/3 de ce budget à des transferts monétaires. Or, ce que montre l'étude, c'est que ces transferts, ils ont un effet, certes, sur la natalité, mais assez modeste. En fait, ce qui a le plus d'effet pour encourager la natalité et réduire cet écart entre le désir d'enfant d'un côté et le nombre d'enfants constatés de l'autre, c'est le fait d'avoir des congés parentaux qui soient plutôt court, pour pas défavoriser l'emploi des femmes, bien indemnisé, pour encourager aussi la natalité chez les niveaux de salaire élevés, et qui soit partagé entre les parents. Et c'est d'autre part d'avoir une offre de mode de garde suffisamment abondante et suffisamment adaptée.
Mais plutôt court, pardon, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait. On n'arrête pas de rallonger les congés parentaux.
Il y a eu une réforme là, qui va entrer en vigueur cette année du congé de naissance, qui a plutôt tendu à réduire la durée du congé parental.
Ah bon ?
Et augmenter l'indemnisation, mais ça va entrer en vigueur en juillet. Donc pour résumer, si on veut vraiment encourager la natalité, il faut travailler sur le mode de garde.
Oui.
Aujourd'hui, il y a quand même un peu moins de la moitié des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas d'offre de garde en crèche ou avec des assistantes maternelles.
Est-ce que la baisse de la natalité est une bonne nouvelle du coup, s'il y a moins de bébés, il y a plus de places en crèche, non ?
Oui, mais en fait, il n'y a pas les personnels. Il y a de toute façon une pénurie de personnel et 1/3 de ces personnels qui va partir à la retraite dans les 5 années qui viennent.
Ah.
Donc, de toute façon, il faut réinvestir sur ces modes de garde. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est bon pour la natalité. Et il faut ensuite moderniser les congés et travailler sur la politique du logement. Si on fait ça, on n'est pas garanti d'augmenter. On n'a pas de garantie d'augmenter notre natalité, mais on peut peut-être arrêter de baisser.
Bon, j'ai pas l'impression que ce soit des sujets qu'on traite encore beaucoup. Hein. En tout cas, si on parle du logement, ça reste très compliqué, Thomas Grébin.
Ça fait un peu penser avec tous les débats sur la réindustrialisation. Autant on sait désindustrialisation...
Réarmement
autant,
démographique.
Autant réindustrialiser, il n'y a pas de recette miracle et il y a toute une palette d'instruments qui peuvent être mobilisés. Ce qui me semble intéressant pour aller en complément de ce que vient de dire Ryan, c'est d'une part, bon, sur les modes de garde, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a eu, depuis 2023, il y a eu beaucoup plus d'argent qui ont été mis sur la table, près de 2 milliards d'euros. C'est pas ça qui a augmenté les places en crèche. Et donc là, il y a une question qui renvoie un peu au début de notre débat. C'est pourquoi les maires, en particulier, ne construisent pas plus de places en crèche. Et ça renvoie, est-ce qu'ils préfèrent pas construire, par exemple, des EHPAD quand ils ont le choix? Et donc là également, c'est le choix de société. Quelle priorité économique on donne à notre pays?
On préfère construire des EHPAD plutôt que des crèches dans les... Alors les deux sont absolument nécessaires, hein, au vu du vieillissement du pays. Mais enfin, quand on est un maire, on a envie de faire vivre son village, on a envie qu'il y ait des écoles, on a envie qu'il y ait des enfants.
Ça dépend de la démographie du village. Le deuxième point, c'est comment on fait, notamment parce qu'il y a un problème sur les modes d'accueil, c'est pour revaloriser les personnels. Et donc là, il y a un gros problème de revalorisation de locaux. Donc, un débat qui est un peu sous-jacent, c'est est-ce qu'on utilise une partie de cet argent des allocations familiales pour réallouer en partie pour financer davantage les modes d'accueil ou les revaloriser les professionnels. Ouais. Donc ça, c'est un débat qui est un peu chaud politiquement. Mais ce qu'on peut penser, c'est qu'on peut faire des ajustements. Par exemple, s'il y a des maternelles ou des écoles élémentaires où il y a moins d'enfants, peut-être qu'on peut réutiliser ces locaux pour par exemple, faire des modes d'accueil. Ça, c'est le premier point.
C'est pas interdit d'être pragmatique.
Voilà. Le deuxième point, ce qui me semble intéressant dans cette note du plan, c'est des comparaisons européennes. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'un pays qui fonctionne bien comme la Suède, où la différence entre le taux d'activité des femmes et des hommes est beaucoup plus faible. On est autour de 3-4 points, alors qu'en France, on est autour de 8 points. Ah oui. Qu'est-ce que font les Suédois? C'est ils rémunèrent bien davantage le congé parental pour les pères. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Si on veut rééquilibrer, il faut beaucoup plus rémunérer le congé parental pour les pères. Et donc, par exemple, la forme de taux de remplacement sur le salaire pour le congé parental en Suède, il est près de 80%. Alors que nous, si on fait l'équivalent de notre congé parental, il est autour de 13%. Donc évidemment, vous avez une désincitation énorme pour les pères en France à prendre ce congé parental. Et donc ça, évidemment, si les pères ne prennent pas de congé, ça crée un déséquilibre, oui. Notamment sur l'emploi des femmes. Quoi.
Et d'autant plus qu'il y a un travail culturel à faire, puisqu'on sait qu'on a rallongé le congé parental des pères, mais que une majorité ne le prend pas complètement, loin de là. J'ai des vieux chiffres en tête, mais Laurent Wonski.
Alors moi, ce débat me rappelle le débat sur l'épargne.
Ah.
Oui, je pense qu'il y a un vrai parallèle, c'est-à-dire que depuis maintenant des décennies, on sait que la France est l'un des pays de l'OCDE qui accumule le plus d'épargne,
oui.
Et tout le monde se gratte la tête, politique en tête, pour dire, mais comment on va faire pour mettre la main sur cette épargne, ou comment est-ce qu'on va faire pour inciter les Français à utiliser cette épargne pour injecter ça dans l'économie réelle? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne peut pas légiférer là-dessus, parce que l'épargne, quelque part, c'est l'indice de la peur, ou l'indice de l'anxiété. Alors moi, je vais être un peu philosophique, ces messieurs ont parfaitement raison, ce sont des mesures techniques. Et on peut prendre des mesures techniques sur l'épargne également, sauf que si, à la fin de la journée, vous ne croyez pas en l'avenir... Si vous ne croyez pas dans votre pays, si vous ne croyez pas dans l'avenir de vos enfants, si vous ne pensez pas que dans votre propre pays, vos enfants seront bien éduqués, auront un travail, pourront accéder à un certain niveau de confort, on peut faire toutes les lois du monde, tous les congés parentaux, tous les ajustements paramétriques, etc. Les gens ne le feront pas. Je vais prendre un exemple très simple. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on a fait une loi qui a dit, maintenant, attention, obligatoire, tout le monde doit faire des enfants dans les 9 mois? Non. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le baby boom? Moi, je fais partie du baby boom. Pourquoi il y a eu le baby boom? Est-ce que les gens, tout d'un coup, il y a eu cette espèce de vague, si vous voulez, d'enthousiasme, où les gens avaient mis la guerre derrière eux, il fallait reconstruire le pays, c'était, si vous voulez, la foi en l'avenir. La mauvaise nouvelle, me semble-t-il, c'est que si vous voulez... Maintenant, je veux dire, l'avenir, on n'en parle quasiment pas. On est sur une échelle de temps qui est extrêmement raccourcie. Et si vous voulez, vous regardez la société avec un grand S, vous avez des mouvements très anxiogènes.
Oui.
Donc, je pense que le devoir, j'en terminerai avec ce propos, c'est comme dans une entreprise. Je veux dire que si vous voulez, on a découvert que tout d'un coup, pour qu'il y ait plus de productivité, il fallait que les gens se sentent bien. Mais pour que les gens se sentent bien, on peut pas faire de loi. C'est vous qui créez une forme de choses immatérielles. Eh bien, la société avec un
climat,
bah oui, c'est la même chose.
C'est exactement ce que dit Davidia. Vous pouvez réagir sur Twitter, n'hésitez pas. Hein. Si on veut que les jeunes couples fassent des enfants, bah, il faut aussi arrêter de les terroriser avec le catastrophisme écologique pour Davidia. Alternance s'interroge. Question sérieuse, comment générer de la croissance et rembourser de la dette avec une natalité en baisse? Et oui, c'est évidemment des questions macroéconomiques majeures, puisqu'on a donc des actifs et des consommateurs en moins. Une réaction à Thomas Grébin.
Non, je suis d'accord, mais il y a quand même un bémol, c'est que quand on regarde des pays comme la Chine ou la Corée du Sud, qui ont des politiques, pour le coup, natalistes extrêmement offensives, avec des aides au logement, il y a même des formes de services publics, j'allais dire de la shop, mais c'est un peu une façon vulgaire de faire, mais en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire même les pays qui ont une planification beaucoup plus forte,
oui,
qui ont des perspectives de croissance plus fortes, qui ont des mesures natalistes beaucoup plus fortes, en fait, n'arrive pas à enrayer la tendance. Donc là, il y a quelque chose même qui dépasse malheureusement même les perspectives de la société française ou européenne. C'est un phénomène
qui dépasse
mondial,
tous les pays. Hein.
Mais il n'y a pas de fatalisme.
Ce qu'explique très bien Maxime Bailly dans Les balançoires vides. Hein.
Je pense
Ryan Neza.
Pardon de dire comme ça, je pense qu'on se trompe un tout petit peu de diagnostic. Ce que montrent justement ces travaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a un désir d'enfant dans la société française. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, cette anxiété, cette peur de l'avenir qui est entretenue dans le débat public, et je suis complètement d'accord pour dire que c'est quelque chose qui pèse sur le quotidien des Français, elle n'entame pas le fait que les Français continuent à vouloir faire des enfants et à avoir des familles qui s'agrandissent. C'est ce qu'on disait, 2,3 enfants, c'est le désir pour un foyer si aujourd'hui vous demandez à des jeunes générations combien d'enfants ils veulent avoir. Le problème, et c'est pour ça que je pense qu'on se trompe de diagnostic en pointant la focale sur le désir d'enfant,
oui,
le problème c'est que les familles n'arrivent pas à en avoir, pour toute une série de raisons. Le coût du logement, ce que l'on évoquait tout à l'heure, la question des revenus, le niveau de revenus, la stabilité des revenus.
Et
in fine,
tout est lié.
Je pense que la politique familiale doit, pour les prochaines années, redonner le choix à des familles, à des couples, à des parents de faire des enfants. Et ça passe en effet par baisser les coûts du logement, avoir un logement abordable, accessible, et pas à 200 km de chez soi. Ça passe aussi, on parlait des modes de garde, j'ai lu simplement en disant que les familles aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France, 4 sur 5, lorsqu'elles ont des enfants, les gardent à la maison. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes d'emploi si on n'a pas une offre de mode de garde suffisante. Et puis, enfin, ça passe aussi par des politiques de santé publique. On n'en a pas encore parlé, mais en matière de lutte contre l'infertilité, d'accès à la PMA, toutes ces politiques publiques doivent aussi contribuer à soutenir la natalité. Quand les familles souhaitent faire des enfants, il ne s'agit pas de l'imposer. On voit bien que les pays qui ont cherché à le faire, ça ne marche pas. On peut penser à la Hongrie, par exemple, qui est en fait dans la moyenne européenne et pas au-dessus. Mais en tout cas, il faut redonner ce choix aux familles de faire des enfants, ce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas toujours.
Et oui, les voies et moyens. Un dernier mot très rapide,
oui,
qu'on parle de l'IA, il nous reste 5 minutes.
Je pense, je l'ai clairement expliqué, je veux dire que je dis simplement qu'on ne peut pas, pour relancer la natalité, mettre en œuvre des lois. Il n'y a pas que ça. Donc évidemment, tout ce que vous avez
essayé de faire, c'est de la confiance en l'avenir.
Bah oui, mais c'est confiance
d'abord
en l'avenir.
Avant tout.
Attendez, juste une petite chose, et on va reboucler avec le premier sujet. Moi, mais je suis pas un spécialiste de la chose, mais je connais des chefs d'entreprise qui sont dans le métier des crèches. Bien, il faut savoir que dans le domaine des crèches, vous avez deux univers. Vous avez les crèches publiques et les crèches privées. Et que d'après ce que j'ai compris, c'est que pour opérer des crèches privées en France, c'est un véritable enfer. Pourquoi ? Parce qu'en clair, il y a une espèce de guerre dogmatique, comme dans l'éducation d'ailleurs, où on considère qu'il n'y a que l'État qui est légitime pour créer des crèches. Donc peut-être que là aussi, il faudrait peut-être revoir le logiciel pour pas seulement inciter les maires à construire des crèches et des EHPAD, mais rendre les choses plus simples, parce que dans un village où vous avez 300 habitants, c'est peut-être plus simple de créer une crèche privée locale qui va accueillir une vingtaine d'enfants. Donc là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de pistes.
Bon, simplification aussi. Allez, un dernier mot, il nous reste malheureusement trop peu de temps pour parler d'un sujet absolument majeur qui est celui de l'intelligence artificielle. On en parle très régulièrement sur cette antenne. On publie aujourd'hui sur l'antenne un sondage via Voice HEC Paris, BFM Business et L'Express. Alors sur le moral des Français, on va passer sur le côté moral des Français. Il est évidemment à un record de faiblesse depuis 2008. On comprend aisément pourquoi, mais on les a interrogés sur l'intelligence l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui constitue une menace pour 42% des décideurs. C'était 34% en novembre 2004. Donc on voit que l'angoisse vis-à-vis de l'IA est en très nette hausse. C'est la même chose pour les actifs en général. 47% estiment qu'il s'agit d'une menace. C'était seulement 25% en novembre 2024. Est-ce qu'il faut croire les... Alors, c'est un papier du Figaro que j'ai vu aujourd'hui, Anne de Guigné nous parle, des apôtres de la job apocalypse. Est-ce qu'il faut y croire, Laurent Wonski?
Alors, il n'y a pas de réponse universelle. Donc, je suis désolé, je vais être un peu nombriliste, je vais parler de mon métier. Donc, oui. Moi, je suis industriel et on fabrique des machines sur mesure. Donc, les deux éléments sont importants. Je pense que dans notre métier, l'IA va être une opportunité absolument extraordinaire. Je ne crois pas un instant que la semaine prochaine, ChatGPT va construire les compresseurs à notre place. Je pense que ça va être la revanche des métiers manuels. Alors, d'aucuns diraient, mais oui, mais un jour, il y aura des robots qui
vont changer le joint de la
bonde. Alors, écoutez, oui, peut-être, mais je ne suis pas sûr que moi, je le verrai de mon vivant. En attendant, c'est clair qu'il va y avoir une vraie dichotomie entre, et c'est assez tragique, des jobs dits d'avenir. Par exemple, aujourd'hui, 75% du développement informatique se fait par l'IA. Mais nous, aujourd'hui, on va se servir de l'IA comme une aide pour nous aider à mieux fabriquer le produit. Je n'ai pas dit qu'on allait mettre des robots, mais on va vraiment être, si vous voulez, le bon exemple de l'homme augmenté. Donc la réponse à votre question, oui, c'est synthétique, c'est que ça dépend des secteurs. Eh oui. Les secteurs qui sont très mécanisés le seront encore plus. Ceux qui sont très manuels, non, je pense que l'impact sera positif. Par contre, beaucoup de métiers d'intermédiation avec des gens qui se sont assis sur leurs propositions de valeur. Ce qui, si je le traduis en bon français, ils ont proposé des honoraires très chers pour une valeur ajoutée limitée. Ceux-là, à mon avis, vont être les premiers qui vont être remplacés par l'IA.
Bon. Thomas Grébin, c'est un peu ce que dit aussi Acemoglu, hein, le prix Nobel d'économie 2024 de mémoire, qui a publié récemment une étude. C'est évidemment complexe, les effets de l'IA en fonction des agents, en fonction des secteurs, en fonction des métiers. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à une apocalypse? Oracle, je le rappelle, vient d'annoncer 30 000 licenciements du fait de l'IA. Enfin, ça, c'est un peu angoissant quand même.
Je ne sais pas s'il faut s'attendre à une apocalypse, et pour l'instant on ne le sait pas, mais c'est vrai qu'il y a par exemple une étude de la COFAS qui était intéressante, qui décomposait les métiers par type de tâches et qui montrait qu'il y avait quand même une partie significative des tâches qui pouvaient être substituées par l'IA.
Et donc, typiquement, étude angoissante, 5 millions d'emplois menacés d'ici 2030, hein, j'ai plus l'horizon en tête, mais
autour
quelques
de 16,
années.
Hein. 16% des emplois. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'études véritablement sur le marché du travail. Le papier du Figaro cite un article intéressant de Philippe Aguillon et de ses co-auteurs. Le problème de cette étude de Philippe Aguillon, c'est qu'elle porte sur des données qui datent d'avant ChatGPT. C'était sur des données qui ne sont pas sur l'IA générative. Donc ça, c'est quand même une très grosse limite pour comprendre ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer sur le marché du travail. Et l'autre limite, c'est que dans cette étude, il montre que les entreprises qui utilisent l'IA, en gros, deviennent plus productives et gagnent des parts de marché contre les autres entreprises, que Acemoglu avait aussi documenté avec une étude sur la robotique. Ceux qui utilisent la robotique deviennent plus productives et gagnent des parts de marché par rapport aux autres. Mais dans ce type d'étude, il n'y a pas l'effet sur l'emploi total, l'effet d'équipe générale, si vous voulez. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y a des entreprises qui vont gagner, d'autres qui vont perdre, mais on ne sait pas quel est l'effet sur l'emploi total. Et donc, c'est là où on verra dans quelques années si les prédictions des oracles n'ont pas fonctionné. Mais ce qu'on peut quand même...
Les prophètes de malheur ou de bonheur. C'est vrai qu'on ne sait pas de quel côté la pierre va retomber.
Mais en tout cas, ça change fondamentalement les usages. Ça va probablement faire des gains de productivité. Donc, si la demande n'augmente pas aussi fortement, le risque, c'est quand même des destructions d'emplois significatives, quoi.
Les précédentes révolutions technologiques, c'était moins d'embauches dans certains secteurs, parce que le secteur d'activité, ce que vous décriviez, va s'atrophier. Il fait des gains de productivité, il a moins besoin de travailleurs pour produire davantage. Et puis, en revanche, pas forcément de baisse totale du nombre d'emplois, même au contraire. L'histoire des métiers à tisser en France qui est célèbre. En fait, vous avez même des créations d'emplois au global, parce que plus de richesses sont créées avec ces gains de productivité, c'est en partie redistribué. Donc ça, c'est pour les précédentes vagues technologiques. On ne sait pas dans quelle mesure l'IA générative, je dis bien générative, parce qu'en effet, un certain nombre d'études étaient avant 2022, avant l'IA générative, on ne sait pas dans quelle mesure ça va modifier ou non ce modèle de révolution technologique. Il y a juste un point pour conclure sur lequel j'aimerais insister. On a au moins une certitude, c'est le rôle de la formation. Vous avez mentionné l'idée que les emplois allaient probablement se polariser en fonction des tâches. Ce qui est certain aussi, c'est que entre une entreprise et une autre, entre un secteur d'activité et une autre, et d'ailleurs ça s'applique aux organisations publiques aussi, ceux qui vont réussir à former les actifs pour s'approprier l'IA, oui, et donc réussir les gains de productivité, auront un avantage compétitif. Et de même pour la formation initiale, l'esprit critique, la créativité, l'inventivité, tout ça, ça ne se prompte pas. Et donc, l'école de la République a encore un rôle à jouer, malgré l'IA.
Le génie humain restera au cœur de l'histoire. Ce sera le mot de la fin de cette émission, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Merci Laurent Vronsky, merci Ryan Nézard et Thomas Grébin. Tout de suite, c'est Arrêt Défense, animé par Jean-Baptiste Huet. Quant à nous, on se retrouve demain, le nouvel horaire, 9h30, 10h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.